Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena.
Le matin du 25 avril 1974, Adelino Gomes, jeune journaliste de 29 ans, s'est retrouvé projeté dans l'histoire comme des milliers de Portugais. Le matin même, à 0h20, la chanson « Grandola Vila Morena » que nous venons d'entendre, signal de la Révolution, avait été diffusée sur les ondes de la radio Renascença. Adelino est sorti de chez lui avec l'idée de couvrir les événements, mais sans micro, puisqu'il avait été viré auparavant de cette même radio. Il est pourtant devenu, on va entendre comment, le speaker de la Révolution des œillets, celui qui a réalisé le premier interview du capitaine Maya, le jeune héros de cette révolution. Nous avons rencontré Adelino à Brest, au Festival Longueur d'onde, début février. Il était invité dans le cadre d'une rétrospective autour de l'atelier de création radiophonique, célèbre émission de France Culture, dont on peut retrouver le podcast Grandola Portugal, la révolution avec œillet rouge, sur le site de Radio France. Par quel miracle Adelino a-t-il pu trouver un micro et un magnétophone pour enregistrer toute cette journée, bravant ainsi la censure? Son reportage est pourtant le seul enregistrement sonore existant des premières heures de la Révolution. Une révolution qui, on va l'entendre, est celle d'un peuple étouffé par la dictature, mais aussi celle d'un peuple qui refuse la colonisation que le régime de Salazar perpétue au Mozambique et en Angola. On écoute Adelino Gomes.
Nous sommes avec Adelino Gomes, qui est donc journaliste, qui était journaliste même le jour de la Révolution des œillets, le 25 avril 1974. Tu étais même un journaliste interdit d'antenne. Et raconte-nous comment tu t'es retrouvé avec un micro dans les mains, cette nuit-là.
Foi como alguns milhares de portugueses. Uns receberam uma chamada telefónica, outros alguém tocou à porta.
Il y a des milliers de Portugais qui ont reçu un appel téléphonique ou bien quelqu'un a sonné à leur porte. Dans mon cas, c'était un frère et une sœur à moi. C'était le matin. Ils ont dit « Écoute, Lisbonne est encerclée ». Eux, ils allaient ailleurs, mais ils se sont rappelés que j'étais journaliste, alors ils m'ont averti. Aussitôt, je suis sorti dehors, dans la rue, mais à ce moment-là, j'étais empêché de travailler à la radio depuis quelques mois. Je travaillais dans une revue mensuelle dont le numéro sortait le premier de chaque mois, et notre prochain numéro, c'était donc le 1er mai. Mais ce numéro, il était déjà bouclé. Donc ça n'avait pas de sens de sortir avec un papier et un crayon pour prendre des notes, car mon reportage allait sortir un mois plus tard. Et c'est pour ça que j'étais comme un citoyen normal dans la rue.
Et comme milliards de citoyens portugais. Encontrei-me na praça principal da cidade de Lisboa.
Et comme des milliers de citoyens portugais, je me suis retrouvé sur la place principale de Lisbonne appelée Terreiro de Paixão, ou Place du Commerce. Et là, j'étais avec mes concitoyens à regarder ce qui se passait.
Só víamos os militares ali. E eu tentava entrar, mas eu não tinha carteira profissional. Os homens da rádio, os homens e as mulheres da rádio, os profissionais da rádio em Portugal não tinham.
Nous n'étions pas autorisés à entrer dans le centre, mais on regardait les militaires. Et moi, je tentais de rentrer, mais je n'avais pas la carte professionnelle. Les hommes et femmes professionnels de radio qui rentraient avaient une carte professionnelle du syndicat des télécommunications. Comme j'étais empêché de travailler, je ne pouvais pas montrer une carte professionnelle que je n'avais pas. C'est pour ça que les militaires ne m'ont pas laissé passer. Jusqu'à ce qu'un journaliste photographe parle avec le militaire pour lui demander de me laisser passer en disant que j'étais journaliste.
Autorizaram-me a entrar. E aí eu passei a ser, ainda sem micro, nem pensava nisso, mas fui para junto dos jornalistas, não é? Só que eu não tinha a certeza se aquele golpe era o golpe.
Et là, je suis rentré, mais sans micro, et j'étais avec les autres journalistes. Sauf que je n'étais pas certain que ce coup d'État était bien celui des capitaines membres du mouvement des forces armées. Je regardais si ces hommes étaient vraiment de l'armée ou s'ils faisaient partie d'un autre coup d'État qui était annoncé de la part de l'extrême droite.
Antes dos militares, do movimento dos capitães, podia ser, portanto, un golpe, uma tentativa de golpe de extrema direita.
J'avais pas bien compris si c'était un coup d'État de l'extrême droite ou des capitaines.
Et então, uma pessoa nunca deixa de ser jornalista, não é? Et então eu pensei assim, eu tenho que saber de que lado é que estes homens estão, porque aquilo era, sabes que aquela arma era arma de cavalaria, não sei em França como é que é, mas em Portugal...
Moi, en tant que journaliste, je n'étais pas en service, mais je voulais tout savoir. Si c'était l'armée de la cavalerie, je ne sais pas en français comment on la nomme, mais ici ils ont des chars de combat, des chevaux, toutes sortes d'armes. C'était une armée conservatrice, des officiers à cheval.
Era possível que aquilo fosse un golpe...
J'ai eu peur que ce soit un coup d'État d'extrême droite.
Meu amigo, foto jornalista, disse-me assim: "Epá, a única maneira é falares com aquele fulano que vai ali, porque aquele é que está a comandar
isto." Mon ami, le photojournaliste, m'a dit: "Écoute, la seule façon de savoir ce qu'il en est, c'est d'aller voir le monsieur qui va là-bas. C'est lui qui dirige tout ça. Il s'appelle Sagueiro Maia."
Há um Maia que andou comigo no liceu a estudar.
Je me dis Maya, mais je connais un Maya. Il a étudié avec moi 10 ans avant, dans les dernières années de lycée. Maintenant, on dit enseignement secondaire au Portugal. J'ai été le voir, non comme journaliste, mais comme ancien compagnon ou collègue, et je lui ai posé la question: alors Maya, de quel côté tu es?
Ça veut dire... Tu appartiens à l'extrême droite militaire ou tu es avec ceux qui veulent faire un coup d'État? Il m'a répondu d'une façon très intéressante en portugais. Il m'a dit s'il était avec les uns ou les autres. Il m'a dit comme ça. Il m'a fait poser une question. Tu non tiveste que ir para o estrangeiro?
T'as pas été obligé de t'exiler à l'étranger à cause de quelque chose que tu as dit à la radio? C'était bizarre car je ne l'avais pas vu depuis 10 ans et quand je le connaissais au lycée, je n'étais pas journaliste.
Moi,
j'étais surpris car il était rentré à l'académie militaire, surpris qu'il soit quand même au courant et que lui, dans la cavalerie, était au courant de ce que je faisais en tant que reporter radio.
Alors il m'a donné... La version la définition la plus intéressante pour moi, ça m'a paru comme si c'était une définition pour cette personne. Tu es journaliste, alors je vais te donner la définition de ce que je fais maintenant, journalistique. Alors il m'a dit, nous faisons ça pour que personne au Portugal soit obligé d'aller à l'étranger à cause de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit ou de ce qu'il pense. Ça, c'est une définition de la liberté, de la liberté de la presse, la liberté de parole, de penser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dès un abraço. Je l'ai embrassé, dit « Oh my !» Alors, j'ai tué la définition du 25 d'avril, une définition appropriée pour moi, une définition personnelle de l'homme qui était commandé dans cette place-là, dans ce lieu-là, la révolution. Bon, à partir d'ici, on s'est embrassé au milieu de la place. Alors, il y a des milliers de personnes qui ont vu un type comme moi, civil, qui embrassait le capitaine qui était au commandement. Et alors, les autres journalistes ont vu ça et ont commencé... Alors, ils me demandaient, est-ce que tu peux demander à ton ami si... Il posait toutes les questions et alors, j'étais le go-between, non? Bon. Et il y a une demi-heure...
C'est l'intermédiaire.
Oui, l'intermédiaire, oui. Au service du journalisme, des journalistes. Celui qui posait la question au commandant au nom des journalistes.
Alors à ce moment-là, une demi-heure après, on a vu les militaires.
On a vu les militaires, les soldats, etc., qui couraient pour les voitures. Alors les autres journalistes m'ont demandé, est-ce que tu peux demander au capitaine Maillet pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit, je vais diviser ma colonne en deux. L'une va pour la... C'était une organisation d'extrême droite du régime qui s'appelait la Légion portugaise. Et l'autre, où les militaires pensaient que le Premier ministre, le président du Conseil était, et peut-être même le chef d'État. Je lui ai demandé, où est-ce que tu vas? Je vais à la rue du Carmo vers le Premier ministre. Alors, j'ai posé une question moi-même, journalistique. Est-ce qu'on peut aller avec toi? Et il a dit, ah oui, mais il nous faut une voiture. Et il m'a répondu, ah, t'as raison, une voiture, hey, soldat, une voiture pour les journalistes. Et alors on est allé faire le dernier combat dans une voiture militaire, une belle ville. Et c'est à ce moment-là que, quand j'étais avec d'autres journalistes dans une voiture militaire, qui deux journalistes couraient pour la voiture où on était, pour que puisse aussi monter. Et j'ai aidé ces deux types que je ne connaissais pas, je les ai aidés à monter. Et ils m'ont interviewé. Nous sommes en présence d'un journaliste, d'un vétéran. Un vétéran. Moi, j'avais 29 ans, hein, comme le capitaine. Nous sommes avec un journaliste vétéran. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses de ce que... Bon, alors, je lui ai répondu. Et après, ils avaient un magnétophone et après, ils ont fermé le magnétophone. Ils ont, avec ma réponse ne leur a pas fait continuer à poser des questions parce qu'il y avait des milliers de personnes. Et moi, le reporter que je continuais à être, leur a demandé, est-ce que je peux aussi faire un petit peu de reportage avec vous? Et tu sais qu'ils m'ont répondu oui, le micro est à toi. Ça pour moi, aujourd'hui, un demi-siècle passé, c'est la chose la plus émouvante pour moi, comme professionnel, parce qu'il y a deux types, deux reporters qui étaient les seuls reporters de radio qui étaient sur place, qui ont renoncé
à leur reportage,
à la gloire, ils étaient les seuls, et qui ont donné le micro à un type. L'un, je ne le connaissais pas, et l'autre, je l'avais vu une ou deux fois. Alors ça, c'est pas seulement une camaraderie, ça c'est...
Geste très fort. Et donc on a entendu cet après-midi dans un atelier cet enregistrement de ton reportage par la suite, et c'est très émouvant d'entendre ce reportage, donc qui est unique, dont on a encore les archives sur Radio Limite, ça s'appelait comme ça.
Le programme s'appelait, ouais. Mais il n'existe plus. Ouais. Non, mais ça, merci bien de m'avoir fait poser la question, parce que effectivement. Je le dis toujours au Portugal, je dis, ça, c'est un, comment est-ce qu'on dit, c'est quelque chose que les dieux du reporter m'ont donné ce jour-là. Je n'ai eu aucune importance dans cette... Les importances étaient deux reporters qui m'ont donné un micro. Et ça, c'est formidable. Alors, je ne peux pas avoir. Alors, après, j'ai commencé à parler. Mais ça, c'est la fonction de reporter, non? Oui. Parler pour le micro. Et après, pourquoi
c'était en direct? Non, il n'y avait pas de direct.
Il n'y avait pas de possibilité. Et après, il y avait la censure. On faisait seulement les directs au Portugal, jusque-là, étaient seulement à travers. On devait demander à la PT de Portugal qui s'appelait Marconi, Radio Marconi, les lignes. Oui. Mais les lignes, on peut demander les lignes quand on sait ce qu'il y a, mais personne ne savait que
sur quoi ça allait déboucher même. Oui, oui.
On pouvait faire aussi si quelque chose arrive et tu as quelqu'un dans une maison que tu connais, tu peux aller à la fenêtre et commencer. Mais on n'avait pas ça. Mais le dernier lieu, la place du Largo do Carmo, la place finale, était à 100 mètres de la radio d'où ils viennent. La radio où j'étais interdit de travailler. Alors on a fait le reportage pour un magnétophone et une amie d'un des reporters, une amie, qui était de la Pologne, mais enfin, ils s'aimaient. Elle allait avec chaque 40 minutes la bobine de l'enregistrement. Elle allait à la radio, donnait à la radio, il venait avec d'autres.
Donc c'était du léger différé.
Différé, mais un différé dès 10h30. Jusqu'à 7h30. Alors c'était
7h30 du matin.
10h30 du matin jusqu'à 7h30. Alors il y en a toujours, ça.
Ouais. Et ces enregistrements existent toujours.
Non, l'original n'existe pas. Peut-être que l'un des deux ait gardé ça, mais il est mort. Et on ne sait pas si sa famille, que je ne connais pas, a conservé ça. Et alors, ce qu'il y a, c'est l'enregistrement d'un programme de 3 heures qu'il a fait, qu'il a monté, parce que moi, j'étais encore interdit. Après le reportage, je n'ai pas été admis dans la radio. Mais lui, il a fait un montage, parce qu'il était en super technicien, il était surtout un ingénieur de son, sonoplaste. Et alors il a fait un programme, un montage de 3 heures, et ces 3 heures, elles existent.
D'accord. Ouais. Ah, d'accord. Alors, il y a un autre point qui m'a beaucoup intéressé. Tu as évoqué le fait que il n'y avait pas d'école de journalisme, bien sûr, sous la dictature de Salazar, et qu'il y a un journaliste ou un technicien français qui est venu, parce que vous avez monté une coopérative de journalisme, et qui est venu aider à former les gens au Portugal.
Oui. La coopérative n'a rien à voir avec ça, mais le Portugal, après le 25 avril, le Portugal, vers la fin du décennie des années 70, devait adopter la technologie de l'image de couleur de la télévision. Et alors, deux pays, ça c'est intéressant, je pense que vous ne savez pas. Il y a deux pays qui voulaient vendre au Portugal
cette technologie.
Secam français et PAL, qui était la technologie
allemande.
Et alors, c'était difficile pour le Portugal de décider. Il fallait, parce que c'était deux pays qui aimaient le Portugal, ils ont aidé, etc., etc. Alors l'Allemagne a gagné la couleur. Et France, alors, a offert la formation des journalistes radio et télévision.
D'accord.
Et alors,
d'accord.
C'est pourquoi moi et d'autres, nous avons suivi un cours qu'un journaliste qui est notre patronne, jusqu'à toujours, il est mort depuis longtemps, qui était Guibert, Édouard Guibert. Il appartenait il a travaillé dans ORTF comme reporter. Il a fait le reportage, je ne sais pas, mai 68, etc. Et après, il est devenu un formateur. Il travaillait pour l'INA et pour la
comment est-ce ? L'école du journalisme.
Si, oui. Quelque chose. Et alors, il était un formateur absolument extra. Et alors, il nous a donné. C'était le premier. J'avais été dans un petit cours, mais il n'y avait pas d'enseignement. Alors, lui, il l'a formé pour la première fois. Ça, c'était en 1979. Il nous a donné un cours de journalisme radiophonique. Il était le coordinateur, mais il venait d'autres journalistes de l'ORTF. Nous former. Alors ça a commencé. Ça, ma génération, c'était ce temps-là, on était déjà des professionnels depuis longtemps, mais on n'avait pas la technique reconnue. C'est pas reconnu la technique. On travaillait par
intuition,
nous-mêmes.
Oui, par intuition. C'était pas professionnel.
Alors pour moi et pour d'autres, le journalisme radiophonique français a formé ma génération et l'autre génération qui arrivait. Alors, c'est très important. Et lui, il était aussi un formateur de télévision. Et il a fait de la formation de journaliste, la même chose à la télévision portugaise. Édouard Guibert. N'oubliez pas.
N'oubliez pas son nom. Un petit mot pour la radio portugaise de Bordeaux, La Clé des Ondes.
En portugais, je vais dire ça. Isto é há 50 anos. E continua a ser o
dia. Je dois le dire en portugais. C'était il y a 50 ans, c'est le plus beau jour de ma vie, professionnellement.
Imaginez o que é um tipo está proibido de trabalhar.
Imaginez un type qui est interdit de travailler, interdit de radio.
Está proibido de trabalhar. E no dia em que acontece esta coisa.
Le jour où cette chose arrive, à la fin de 48 ans de fascisme. Il y a un régime qui est terminé et un autre qui commence. J'ai une vision double comme citoyen et comme professionnel. Comme professionnel, j'étais interdit de travailler à la radio, il y avait la censure. Comme citoyen, je n'ai pas aimé la dictature.
Et aqueles homens traziam-nos a liberdade. Então eu fui duplamente feliz comme professionnel parce que narrei o fim do regime de 48 anos em microfone.
Ces hommes-là, les capitaines, nous amenaient la liberté. Et moi, j'étais doublement content, car j'ai parlé de la fin d'un régime de 48 ans et j'étais au micro d'une radio dans laquelle j'étais interdit.
De radio, comme journaliste et comme cidadão, aquele, eu costumo dizer, há pessoas, às vezes dizem-me assim.
Comme citoyen, j'ai écrit un nouveau chapitre de l'histoire du Portugal, et c'est aussi le cas comme travailleur de la radio. Après, les gens m'ont dit, tu dis c'est le plus beau jour de ta vie, mais ce n'est pas le jour où tu t'es marié ou quand tu as eu tes enfants, tes petits-enfants. Oui, c'était des jours heureux, mais celui-là l'était encore plus, car c'était la liberté de tout un peuple. La citoyenneté, c'est quelque chose qui va au-delà de ses enfants, de ses petits-enfants. Notre vie, ce n'est pas que notre famille. Notre famille, c'est la chose la plus extraordinaire qui existe, mais nous, on n'est pas que nous. Nous, c'est aussi nos voisins, les concitoyens, les gens du monde. C'est au-delà de tout ça. Je peux être très bien, très content dans ma famille, mais quand je sors dehors, je vais travailler dans mon métier et je suis mis en prison pour ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la famille. C'est de notre dimension de citoyen dont il s'agit. Et c'est pour ça que je dis que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est de toutes ces dimensions dont je parle.
Esse dia foi muito feliz, mas isso aconteceu num quadro em que eu não tive mérito nenhum. Olha, aí está, não foi ninguém da minha família que me foi emprestar o microfone. Foram outras pessoas. Essa é a vida social.
Tout ça m'est arrivé dans un cadre dont je ne savais rien. Ça, c'est la vie sociale, la vie de citoyen. Ce n'est pas ma famille qui m'a passé le microphone, c'est quelqu'un d'autre. J'ai déjà 79 ans et les gens qui m'écoutent ont peut-être moins. Mais il y a des choses qui sont collectives, d'autres non. Et c'est très bien que nous participions à cette vie-là, avec les gens, les citoyens. Le 25 avril, c'est une chose merveilleuse qui est arrivée. Mais après le 25 avril, des gens disent « il n'y a pas eu que des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses ». A priori, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont dit. Ça ne dépend pas de nous, mais c'est notre combat de tous les jours. Est-ce qu'ils ont fait bien les choses? Est-ce qu'ils voulaient gagner plus? Est-ce qu'ils étaient contre le régime? Je vais terminer, mais laisse-moi raconter une histoire. Salgueiro Maia, c'était un homme, peut-être le plus sincère de tous. Il a promis qu'une fois le coup d'État fait, il retournerait dans les casernes et ils l'ont fait. Et Salgueiro Maia a été invité plusieurs fois dans des rencontres, dans des ambassades. Les gens voulaient qu'il soit membre du Conseil révolutionnaire et il n'a pas accepté. Il est resté dans la vie militaire. Quand j'étais au lycée, il est resté dans l'académie militaire parce qu'il croyait toujours au Portugal libre, égalitaire pour tous les citoyens. Avant la Révolution, il était parti au Mozambique pour essayer de calmer la guerre. Quand il est arrivé, il a dit « Si c'est pour faire la guerre, je veux être commando pour faire une guerre sérieuse. »
Si vous me permettez, Maia est allé pour sa première mission comme militaire dans la guerre, c'était de combattre l'ennemi. Alors, ceux qui essayaient de terminer la colonisation au Mozambique. Et alors, il a dit, si je dois faire la guerre, il faut que je la fasse de la meilleure, de la forme la plus techniquement. Et alors, il a décidé de la faire, il a demandé de la faire comme commando. Il l'a fait. Et c'était l'expérience au Mozambique de la guerre qu'il a montré, qu'il a commencé à avoir le doute sur mais est-ce qu'on est ici à défendre la patrie, l'empire pur, etc., ou on défend ici des intérêts qui ne sont pas les nôtres de Portugais. Bon, et après il est allé pour une autre commission à Guinée-Bissau. Et en Guinée-Bissau, c'est le général Spinola qui lui a démontré, et aux autres, qu'on avait déjà perdu la guerre. Il fallait commencer des négociations avec l'ennemi. Mais le régime, les politiques, le professeur Marcel Caetano, ne voulaient pas. Ils voulaient continuer la guerre. Et alors, ils ont décidé, avec la même force qu'il a dit, qu'il est allé combattre l'ennemi, il a décidé, avec la même force, de terminer terminer l'empire colonial. Donc, O que é que eu vos digo? É assim, na verdade, aquilo não foi...
En vérité, est-ce que les militaires étaient tristes? Est-ce qu'ils voulaient gagner plus d'argent? Est-ce qu'ils voulaient monter en grade ou empêcher les autres d'arriver? C'est ce que des gens racontent, mais ce n'est pas vrai. Les militaires se posaient beaucoup la question de l'utilité d'aller là-bas sur la colonisation. Est-ce que c'était une guerre juste? Les militaires ont cessé de croire à cette guerre.
Era novo tempo, era o tempo de fazer. E ele, o general Spinola até queria fazer então uma federação, mas depois já era tarde.
Même le général Spinola, il a cessé de croire à la guerre et il a essayé de l'arrêter. Il voulait faire une fédération, mais c'était déjà trop tard, il ne l'a pas fait.
Esse 25 de abril para mim é um momento como para tantas mães de criança. Olha, sabem que a minha mulher
Les politiques et le régime n'y ont pas cru pour d'autres intérêts. Après, les gens ont commencé à croire ou à ne pas croire.
Ela dizia-me sempre, não, eu não tive os sentimentos que tu tiveste por causa da liberdade de imprensa. Por causa... Sabes o que é que eu senti no primeiro momento em que tu disseste que o Marcelo Caetano se tinha rendido? Foi assim, olha, os meus filhos já não vão para a guerra. Então, tantas mães naquele dia pensaram isso.
Ma femme qui était conservatrice n'a pas ressenti le 25 avril comme moi. Car lorsque Marcel Caetano, le chef d'État à l'époque, a quitté le pouvoir, ma femme m'a dit « Maintenant, c'est bien, les enfants ne risquent plus de partir à la guerre ». Beaucoup de mères ont pensé la même chose. Les enfants n'iront pas à la guerre. Par contre, la décolonisation... Beaucoup de mères ont pensé la même chose. Mes enfants n'iront pas à la guerre. Par contre, la décolonisation ne s'est pas bien passée. La faute n'incombe pas à l'armée, mais à ceux qui sont restés et qui ont continué l'esclavage là-bas. C'était impossible de continuer avec la colonisation. Pour les Français aussi, cela a coûté beaucoup par l'intermédiaire du général de Gaulle, lorsqu'ils ont été obligés de reconnaître l'Algérie. Les Anglais ont fait d'une autre façon, mais aussi cela fait partie de l'histoire.
Et pour ça que je dis, pour moi, je vais acabar, que ça te va falar à moins de temps.
Maintenant, je vais terminer. Je parle depuis longtemps et pour moi, le 25 avril, c'est le jour le plus heureux de ma vie professionnelle et de ma vie de citoyen. Je remercie les militaires et tous ceux qui ont participé, des milliers de personnes qui étaient là-bas. Et surtout, un remerciement spécial pour les deux jeunes qui m'ont prêté le microphone.
Merci à Adelino Gomez, speaker de la Révolution des œillets, pour avoir partagé ses souvenirs vieux de 50 ans et pourtant intacts. Merci à José pour sa traduction et à Baptiste pour sa lecture. Souhaitons que les espoirs portés par cette magnifique révolution continuent d'irriguer notre avenir.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.